Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, Mark Hamilton est microbiologiste, président du groupe Eurofins Environex. Il est avec nous pour parler de la, bien sûr, deuxième vague. Mark Hamilton, bonjour.
Oui, bon matin, Richard, ça va bien?
Ben, ça va bien.
C'est relatif.
T'sais, moi, je me dis tout le temps, tant que les enfants peuvent aller à l'école, ça va bien. Si mon enfant est encore confiné et fait de l'école à distance, ça va aller très mal. Mais il peut voir ses amis, il peut aller dans le cours d'école. Jusqu'à date, ça va bien. Mark Hamilton, pas d'amélioration de la courbe avant décembre. Ouf.
Ben, écoute, c'est prévoyable. Faut penser une chose. Rappelle-toi, là, on a été confinés du 22 mars au 4 mai. Puis le 4 mai, là, c'est la région de Québec. Montréal a été une semaine plus tard déconfiné. Ça a été un confinement qui a duré 40 jours. Le 28 jours que François Legault nous a dit hier d'être tranquille pendant 28 jours, ben, ça fait référence un peu à la quarantaine qu'on a connue, là. Donc, dire les prochains 28 jours, il le sait qu'on va atteindre les pics. D'ici la fin octobre, moi j'estime qu'on va atteindre des chiffres qui sont le double de ce qu'on a là présentement en termes de positivité. Pourquoi est-ce que je m'en vais jusqu'à début décembre? C'est que l'épidémie, là, on ne sait pas comment elle va se comporter dans un écosystème favorable au virus respiratoire. Parce que le printemps dernier, l'avantage que nous avions, c'est qu'on était en plein printemps. Et le beau temps s'en venait, puis les conditions, l'écosystème relié à un virus respiratoire s'amélioraient de jour en jour à cause du beau temps. Là, c'est l'inverse qui arrive. On arrive en même temps que les grippes saisonnières, les rhumes, les virus voyagent facilement dans l'air. Et là, c'est là que ça va créer tout un émoi qu'on ne sait pas si la courbe va s'aplanir à la fin octobre, à la fin novembre. Moi, j'estime qu'elle va s'étirer à cause de ces facteurs-là.
Écoute, Marc, il faut dire, là, M. Arruda là, a fait une grosse gaffe cette semaine. On lui a demandé comment ça se fait qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs, au Canada, on dirait. Et il a dit, c'est parce que la souche du virus qui est au Québec est plus virulente et différente que la souche des autres virus. Et là, il y a une microbiologiste qui dit, c'est n'importe quoi, c'est totalement faux. On a le même virus ici qu'en Ontario. C'est faux de dire que c'est plus grave ici parce que le virus est plus virulent. Et que quelqu'un de la santé publique, directeur de la santé publique, dise ça.
Ben, c'est évident. Pour dire ça, il faut qu'il soit appuyé par du séquençage génomique. En tant que tel, c'est quelque chose qui est vérifiable. S'il y a les preuves scientifiques de dire, ben, donne-moi le séquençage génomique de la source du Québec versus celle du reste du Canada, ben, s'il y a une preuve de le dire, on va le croire. Ben, c'est évident que c'est encore le même COVID qu'on a connu au Canada, qui est resté persistant dans la population tout l'été. Il a juste pris un break. C'est comme tu le sais, dans chacune des pandémies mondiales qu'on a eues, là, puis là, ben, que ce soit la grippe de Hong Kong, que ce soit la grippe espagnole, il y a toujours eu un break d'environ 3 mois entre la première et la deuxième vague. Et ce break-là a toujours été durant une saison estivale. Exactement comme il se passe là. Fait que c'est copié-collé de ce qu'on a déjà vu. Ben, pas moi, là, mais mes ancêtres ont déjà vu il y a 100 ans passé. Et c'est comme ça, les pandémies. C'est le même virus qui persiste, qui prend un break. Parce que les gens sont dehors, parce qu'il fait beau, parce que le soleil, blablabla, tous les facteurs d'écosystème. Et l'automne, bang! Ça reprend un peu comme on vit présentement. C'est la nature qui est faite comme ça. Je pense que Dr. Arruda, il prône la délinquance depuis le début au Québec. Moi, je pense que c'est à quelque part, c'est les abus que nous avons faits qui ont accentué la présence du virus dans une contamination communautaire, jumelée à ce que les gens se confinent de plus en plus à cause du mauvais temps, jumelée à l'écosystème relatif qui fait en sorte que les virus respiratoires deviennent dans leur élément favorable, qui nous amène jusque-là présentement.
Mais c'est ça, c'est pas là, quand il nous dit là, c'est à cause de la souche du virus, c'est totalement faux, puis d'ailleurs, elle s'est fait revirer comme une crêpe par une microbiologiste, donc c'est pas ça, c'est que nous autres, c'est peut-être notre côté latin, on est un peu plus délinquants que les Ontariens.
Ben, je pense que c'est ça. Je pense que tu as raison. Là, notre côté latin, notre côté français aussi, qui fait qu'on aime bien se racoler, qu'on aime être ensemble, qu'on aime prendre... Tu sais, je pense que tout ça a fait en sorte que le virus, lui, il aime les êtres humains. Il les adore. Fait que plus il y en a à la même place, plus c'est du fun.
Et Marc, là, les gens qui disent là, c'est pas si grave. Oui, il y a beaucoup de cas, mais il y a très peu d'hospitalisations. Là, à Montréal, 61 hospitalisations, c'est 61 de trop. Mais bon, c'est 61, c'est pas gros. Que les personnes âgées, les personnes vulnérables sont en CHSLD, c'est moins pire que la première vague. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui disent bah là, tu rien que les jeunes qui vont l'attraper, puis ils sont faits forts, vont passer à travers.
Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, là, pour répondre à ces gens-là, s'ils ont en partie raison d'une certaine manière, si on revient à la première vague, 36 % des gens qui attrapaient le COVID avaient 70 ans et plus. Ces 70 ans et plus-là, comme vous savez, ont été à 90 % 90-90 % en ont décédé. On remplit les hôpitaux. On a eu plus de 1 700 hospitalisation au pic de la pandémie. Il y avait 250 personnes aux soins intensifs et qui étaient majoritairement occupées par des gens à risque, par des gens de 70 ans et plus. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de la pendule. Les gens de 70 ans et plus, les gens à risque, c'est moins de 10 % des personnes infectées présentement. Et okay. Le gros pic, c'est entre 18 et 30 ans que 50 % plus de 50 % des gens infectés présentement qui propagent le virus entre 18 et 30 ans. C'est évident qu'entre 18 et 30 ans, les facteurs de risque sont moins là. Les gens ont un meilleur système immunitaire et on va avoir plus de problématiques de transmission que de développer des symptômes graves. Rien n'empêche qu'il n'est pas impossible que sur le lot de ces 50 %-là, qu'il y en a quelques-uns qui se rendent à l'hôpital, qui développent des complications. Ouais. Ça risque d'arriver, on s'entend, mais c'est pas aussi significatif. Que les gens sont les disants.
Ben c'est ça, le danger, c'est la transmission. Parce que les gens là, qui travaillent, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui rentrent dans les CHSLD, eux autres, ils couchent pas dans un CHSLD. Là. Ils retournent chez eux une fois leur corps de travail fini. Puis là, ben ils vont à l'épicerie. Puis là, ils vont se promener sur la rue, font leur jogging.
Ils ont des enfants.
Puis ça, c'est ça le danger, c'est qu'eux autres l'attrapent, ils ont pas de symptômes, ils rentrent dans un CHSLD, puis paf!
Et c'est exactement ce qui se passe présentement. Que ce soit une personne qui passe la mort, que ce soit quelqu'un qui... Toutes les gens qui prennent soin des CHSLD, comme tu dis, ils ne vivent pas dans les CHSLD. Donc, ils percent la bulle à tous les soirs. Et même si on porte des masques, il y a quand même une proximité qui fait en sorte qu'on peut transmettre dans les CHSLD. Et c'est la crainte qu'on a. Le gouvernement, c'est la crainte. Et même si on teste souvent les gens en CHSLD, ben les infirmiers et infirmières qui travaillent là... Ben, tu sais, ils rentrent quand même à tous les jours, même en attente de leur test, parce qu'ils sont testés très régulièrement, puis ils peuvent pas attendre 4-5 jours dans deux tests, surtout s'ils n'ont pas de symptômes. Donc, ça crée une problématique. Mais moi, une des problématiques, Richard, que j'ai plus peur qui arrive. Moi, là, au-delà des prédictions, au-delà d'avoir 1 500 personnes hospitalisées, c'est que, tu sais, qu'à 30 000, il fait à peu près 30 000 prélèvements par jour, à peu près, là, un peu partout dans la province. 30 000 personnes qui ne rentrent pas travailler ou qui ne vont pas à l'école. Et ça, c'est par jour, là. Qui va attendre 7 à 10 jours avant d'avoir les résultats. Calcule ça sur 5 jours, là. Ça fait 150 000 personnes qui, en principe, ne devraient pas rentrer travailler parce que sont en attente de résultats. C'est 150 000 personnes qui, peut-être, n'iront pas à l'école ou que, collatéralement parlant, si l'enfant a peut-être des symptômes, les personnes ne rentreront pas travailler. Et je parlais à un de mes collègues qui travaille à un hôpital qui me disait, Marc, le problème que j'ai, là, il dit, c'est pas que j'ai pas de lit. Le problème, c'est que j'ai plus personne pour soigner mes gens parce qu'ils sont tous en attente de résultats, parce que leurs enfants ont passé un test, parce qu'ils sont en attente de résultats aussi, qui paralysent. Et c'est ça le problème qui va arriver tantôt. 30 000 personnes pendant 3 mois de temps, ça fait du monde à la messe qui se présente pas, là.
Tabarnouche, oui, qui se présentent pas, qui travaillent, ces gens-là, peut-être dans les hôpitaux, peut-être dans les écoles, puis tout ça.
Partout.
Ça fait
Mais
du
surtout,
monde.
Surtout, c'était à risque, qui était encore plus à risque de faire des tests plus souvent, entre autres des hôpitaux. Puis c'est ça qui fait peur. Quand tu as une éclosion dans un hôpital, c'est tous les gens qui travaillent là, qui sont sur le qui-vive, qui vont se faire tester. Puis ça fait des gens qui ne rentrent pas travailler pour pas promouvoir la transmission communautaire dans un endroit à risque. Et c'est ça qui fait qu'on n'avait pas nécessairement ce printemps. Et que là, ben, tu sais, puis en plus, comme tu le sais, les rhumes, la COVID, les rhumes, la grippe saisonnière, c'est tous des symptômes apparentés. Parce que j'ai le nez qui pique, j'ai les yeux qui coulent.
Fait, t'imagines le nombre de gens qui vont aller se faire tester, toi, puis qui vont se mettre en isolement parce qu'ils pensent qu'ils ont la COVID, puis ils ont rien qu'une grippe saisonnière?
97 % des gens qui se font tester présentement, c'est ça qui arrive. Et c'est ça le problème. T'sais, oui, je comprends qu'on suit la courbe et qu'on a une meilleure overview. Ça, c'est parfait. Il faut tester. Mais le problème, c'est qu'on se teste beaucoup plus de gens qui ont des faux symptômes. Et les gens, je les comprends, hein, ils ont peur. Puis que aussitôt qu'il y a un petit symptôme, hey, je l'ai peut-être, je vais me faire tester. Mais tu sais, oui. Tu testes une personne dans une famille, c'est toute la famille qui est paralysée, là.
Et sais-tu, tu me demandais comment ça va, Richard. Sais-tu qu'est-ce qui est dur ces temps-ci? Si je commence, puis comme tous les Québécois, comme tout le monde sur la planète, Christy, je commence à prendre conscience que ça peut durer longtemps, que c'est le new normal, tu sais, qu'il va falloir apprendre à vivre comme ça avec le virus pendant un maudit bout.
Ben, moi, c'est, oui, je comprends qu'on se sent de même présentement, mais si on suit à la tangente des pandémies mondiales qu'on a connues, et si c'est ce qui, s'il arrive la même chose qui nous est arrivée il y a 100 ans passé qu'à H1N1, après la deuxième vague, il y a eu quelques petits soubresauts et le virus a disparu à tout jamais.
Merci,
donc,
Marc.
Moi, je veux encourager les gens, c'est que potentiellement, le printemps prochain, là, quand que l'été va revenir, que le beau temps va revenir, je ne serais pas surpris que le virus disparaisse de sa propre vie et que oui, le vaccin va arriver, tant mieux, mais que le vaccin risque peut-être d'arriver quand le virus va être vraiment sur sa mort lui-même.
Ah, donc, on va être immunisé.
Mais moi, je souhaite, je pense que c'est ça qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une deuxième vague. Oui, on va encore souffrir présentement et cet hiver parce que tout l'écosystème est favorable et que le virus va mourir de sa mort. Et espérant qu'il n'y ait pas d'autres types de mutations. Mais généralement, les pandémies, il n'y a pas vraiment de mutations qui créent d'autres pandémies. Et le printemps prochain, ça devrait être derrière nous. Ça, c'est ce que j'aimerais
que tu me fais du bien, toi, ce matin.
Historiquement parlant, ce que je dis, c'est ce qui est arrivé.
Ben, j'espère, my God, que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Donc, c'est un dernier bout, là. On serre les coudes, là. On est responsable, puis tout ça. Puis peut-être que le printemps prochain, la vie normale pourra revenir. Merci beaucoup, Marc Hamilton.
Avec grand plaisir.
Salut, microbiologiste, président du groupe Eurofins Environex.